Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. En Algérie, coup de théâtre hier au procès pour corruption où comparaissent d'anciens ministres et hommes d'affaires. À 5 jours de l'ouverture du scrutin très contesté pour l'élection présidentielle, Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, qui a été condamné à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, a comparu au tribunal comme témoin. À Alger, Leïla Berato.
L'image avait de quoi laisser les téléspectateurs stupéfaits. Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, l'un des hommes les plus puissants du pays il y a un an, face au juge, entouré des forces d'intervention de la gendarmerie, d'avocats et de policiers. Si Saïd Bouteflika s'est retrouvé dans le tribunal d'Alger ce samedi, c'est parce que dans la matinée, Ali Haddad, l'ancien patron des patrons, l'a mis en cause dans l'affaire de financement occulte de la campagne présidentielle pour un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Une affaire qui est jugée depuis mercredi et pour laquelle 2 anciens premiers ministres et des hauts responsables sont en détention provisoire. Ali Haddad évoque l'équivalent d'au moins 6 millions d'euros qui avaient été récoltés parmi les chefs d'entreprise. Saïd Bouteflika a refusé de répondre, mais l'image de l'homme qui fait partie du groupe que le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah appelle la bande, la mafia, a été diffusée dans les journaux télévisés à 5 jours du scrutin présidentiel.
Après une nouvelle manifestation massive vendredi dénonçant la tenue de ce scrutin, en France, entre 700 000 et 800 000 Algériens peuvent voter dès ce week-end dans les consulats. 5 candidats sont en course, issus principalement de l'entourage de l'ex-président Bouteflika. Le taux de participation sera l'enjeu majeur et selon Pierre Vermeeren, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du Maghreb, la diaspora algérienne, contrairement à celle de Tunisie ou de Turquie, ne devrait pas jouer le jeu du pouvoir en place.
En Tunisie, on a vu par exemple que c'est les électeurs tunisiens en Europe qui ont renforcé, voire même qui ont permis à Ennahda de gagner. On avait déjà eu ce phénomène en Turquie où Erdogan avait gagné grâce à la diaspora européenne qui est plus islamiste et plus nationaliste que la moyenne. Dans le cas de l'Algérie, c'est plus ambigu parce qu'il y a beaucoup de Kabyles, c'est une majorité de Kabyles historiquement, beaucoup de francophones, beaucoup de gens qui sont plus laïcs que la moyenne. Donc à mon avis, c'est un peu l'inverse et donc ça renforcerait plutôt les libéraux s'ils se présentaient, mais là comme ils ne se présentent pas, je pense qu'il va y avoir un taux de vote très très faible. Donc à mon avis, ils ne vont pas voter pour manifester leur refus de cette élection un peu mascarade.
Pierre Vermeeren répondait à Nathanaël Charbonnier. À Hong Kong, les militants pro-démocratie espèrent une participation massive aujourd'hui à la manifestation censée offrir aux autorités une dernière chance de répondre à leurs revendications. L'ex-colonie britannique traverse depuis juin dernier la plus grave crise depuis la rétrocession du territoire à Pékin en 1997. En France, Emmanuel Macron et Édouard Philippe réunissent ce soir l'ensemble des ministres concernés par la réforme des retraites à l'Élysée. Le numéro 1 de la CGT a affiché sa fermeté dans les colonnes du journal du dimanche ce matin. « Nous tiendrons jusqu'au retrait de la réforme des retraites. La balle est dans le camp du gouvernement », déclare Philippe Martinez. Alors que la grève se poursuit à la SNCF et à la RATP ce matin, hier des milliers de personnes ont manifesté, notamment à Paris, Marseille, Lyon et Nantes. 23 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, se sont rassemblés contre la réforme du chômage et contre la précarité. Gilets jaunes et syndicats, parfois ensemble, parfois chacun de leur côté. Une convergence soutenue par Jérôme Rodriguez à Paris, figure des Gilets jaunes, au micro de Valentin Dunat.
Force est de constater aujourd'hui qu'il y a l'ensemble des syndiqués qui ont marché avec nous pendant l'année, ceux qu'on dit qu'aujourd'hui qui se gilets jaunisent, sont pour une convergence des luttes, afin d'essayer de faire bouger les lignes à la fois dans leur communauté syndicale, on va dire, de faire réagir un petit peu, de les déborder à la même échelle que les gilets jaunes ont su déborder aujourd'hui le gouvernement depuis un an. Donc ça inspire à une certaine confiance.
Est-ce que la convergence sur le terrain, par exemple, aujourd'hui en manif, s'opère ?
Alors elle reste à définir, elle reste à préciser aujourd'hui, et de par les différentes AG, ça reste quand même un tant soit peu fébrile, mais je pense qu'on est sur le bon chemin à confirmer. Je pense qu'il est important de comprendre aujourd'hui qu'on porte pas forcément le même maillot, mais on transpire pour la même chose, et sur l'ensemble des discussions, débats ou autres échanges que j'ai pu avoir avec les syndiqués aujourd'hui en France, je reste confiant sur les paroles, en espérant que les actes soient bien présents eux aussi.
Alors que cette nuit, une opération à l'échelle du globe a eu lieu pour sensibiliser au sort des sans-abri dans une cinquantaine de villes à travers le monde. À Londres, Brisbane ou encore Los Angeles, des dizaines de milliers de personnes ont dormi dehors en solidarité avec les plus démunis. Reportage à New York où l'événement réunissait plus d'un millier de personnes à Times Square, en présence également de l'acteur Will Smith, venu soutenir l'initiative Lloyd Lurie.
Once upon a time.
Une histoire avant d'aller dormir face aux écrans géants de Times Square. Le conteur hier soir s'appelait Will Smith. Face à des centaines de personnes sur le point de passer la nuit dehors, l'acteur a improvisé sur le générique du Prince de Bel-Air.
Il y avait ce petit garçon dans une ville très lointaine, West Philadelphia.
Le thermomètre affiche moins de 0 degré, les volontaires ont froid, mais ils sont là pour ça, disent-ils, la solidarité avec les sans-abri. Lavinia est venue exprès d'Édimbourg où l'initiative est née. Elle y a participé il y a 2 ans.
Cette nuit-là, un sans-abri est mort. C'est terrible. Il y a 2 ans, à Édimbourg, il faisait moins 6. Et ce n'était qu'une seule nuit, mais j'ai trouvé ça horrible, affreux.
Gina, elle n'a pas la même expérience et elle est un peu anxieuse.
Un petit peu, j'ai mis plusieurs couches, 3 pantalons, 2 paires de chaussettes, 4 t-shirts, 2 bonnets. Et je ne sais pas comment on va dormir avec toutes ces lumières, c'est plutôt intéressant.
Une expérience qui bien sûr a ses limites, les sans-abri new-yorkais ne sont pas aussi bien couverts. Ils sont plus de 60 000, un chiffre inédit depuis la Grande Dépression.
Un reportage signé Loïc Loury pour France Culture. La météo, des averses ce matin, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au nord en passant par la région parisienne. Alternance de soleil et d'éclaircies sur le quart nord-ouest. Soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises en moyenne entre 1 et 13 degrés, avec 1 degré à Annecy, 6 degrés à Lyon, 12 à Paris et Bordeaux et maximum, ce sera 13 degrés à Nantes.